Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
J'ai le plaisir de vous présenter Camille Vigeuil Le Coat, j'allais dire à triple titre. Je vais vous dire les raisons. D'abord parce que j'espère que vous allez découvrir ce livre et que vous allez pouvoir constater que c'est un très bon petit bouquin, parce que le format est pas énorme, c'est pas un gros livre. C'est un livre qui fait 135 pages, donc qui se lit facilement, mais qui est remarquablement bien fait. La deuxième raison pour laquelle je suis content de retrouver Camille, c'est que évidemment on est dans l'actualité la plus chaude, puisque le maire de Bordeaux, Alain Juppé, comme vous le savez, est lui officiellement candidat à la primaire dite de la droite, qui aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. Donc voilà un livre qui, parmi d'autres livres sur Alain Juppé, tombe particulièrement bien. Puis j'allais dire, peut-être la raison qui me touche le plus, c'est que Camille a été mon étudiante à Sciences Po Bordeaux. Elle a été recrutée en particulier par un oral qu'elle a passé avec moi en 2008, c'est ça Camille,
voilà, un oral terrorisant.
Bon, étudiante de la filière franco-italienne, qui est un programme tout à fait remarquable dont j'ai l'honneur d'avoir la responsabilité pédagogique. Et j'ai beaucoup apprécié Camille comme étudiante. Et je peux dire que maintenant, j'en suis très fier. Parce que je crois que c'est peut-être la première fois en plus que je présente. J'ai eu des étudiantes et des étudiants, plusieurs qui ont écrit des livres, publié des livres, mais c'est la première fois que j'ai le plaisir de présenter une de mes anciennes élèves qui a écrit un livre. Voilà. Tout ça pour dire que je suis presque aussi ému que Camille, et puis je ne vais pas lui faire passer un oral, parce que d'une certaine façon, c'est plutôt l'inverse, c'est elle qui va pouvoir m'interroger. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Camille, c'est comment est-ce que vous avez procédé? Combien de temps de recherche pour écrire ce livre? Qui avez-vous vu? À la toute fin du livre, page 139, on a le sentiment que vous avez vu Alain Juppé, mais ça durait 59 minutes. Alors, vous allez nous dire s'il y a eu d'autres rencontres. Votre méthode de travail, c'était comment ?
Alors, donc, j'ai commencé, l'éditeur m'a proposé ce projet en février 2015, donc il y a presque un an et demi. Comment j'ai procédé ? J'ai d'abord pris le temps de la réflexion pour savoir si je voulais m'engager dans un tel projet. J'ai très vite accepté parce que ça me semblait être un beau projet. J'aimais bien en plus la façon d'aborder le personnage, qui me semblait un peu différente des biographies classiques et qui m'intéressait sur plusieurs aspects. Et puis après, il y a le travail, avant même de voir qui que ce soit, il y a le travail d'enquête préliminaire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu, j'ai acheté à peu près tout ce qui s'était écrit, normalement tout ce qui s'était écrit sur Alain Juppé et sur la période. J'ai été aussi consulter de nombreuses archives, parce que les archives, notamment des années 60 ou 70, ne sont pas numérisées pour la plupart. Donc c'est pour ça que je remercie aussi le service des archives de Sud-Ouest qui m'a beaucoup aidé à déterrer des articles dont on n'avait plus la trace sur le web. Et puis j'ai commencé à faire une liste de toutes les personnes que je voulais rencontrer pour le livre. En plus, vu la période concernée, y a des gens qui ont un certain âge, qui sont malades, qui ne sont plus là. Enfin voilà, il y avait eu trier qui était disponible, dans quelle ville, comment, les contacter tous les uns après les autres. Et très vite, j'ai contacté Alain Juppé tout d'abord par son équipe et Gilles Boyer, son conseiller. Il m'a assez vite donné la réponse positive que j'attendais, en me disant qu'Alain Juppé était d'accord pour me rencontrer. J'ai par contre fait attention, demandé de rencontrer Alain Juppé à la toute fin. À la toute fin de mon travail. C'est-à-dire que je voulais avoir d'abord rencontré ses proches, ses anciens collaborateurs, sa famille, ses anciens amis, ses amis actuels, ses opposants politiques aussi. Enfin voilà, parce que je trouvais ça plus intéressant de voir Alain Juppé à la fin pour avoir aussi son avis sur les entretiens que j'avais pu mener, etc. Je trouvais ça plus opportun. Et j'ai rencontré Alain Juppé 59 minutes ou 1 minute 02 plusieurs fois 59 minutes. Mais à chaque fois, voilà, j'avais d'abord une heure. C'est quelqu'un de très pris. Il a un conseiller qui est très directif, qui me donnait à chaque fois une heure. Et puis, au fur et à mesure, j'avais dit, mais j'ai encore beaucoup de questions. Ah d'accord, mais une heure de plus. Donc voilà.
Alors la période que vous traitez, elle s'étend c'est pas tout à fait du 15 août 1945. Ça, c'est la date de naissance d'Alain Juppé à Mont-de-Marsan. En gros, jusqu'en 1983 pratiquement. Mm-hmm. C'est-à-dire jusqu'au moment où il est élu au municipal contre ce qu'on appelle la bande du 18e, hein, les socialistes du 18e arrondissement. Et là, il est élu sur le quartier La Goutte d'Or, hein, donc jusqu'en 1983. Hein. Donc, il y a 9 chapitres, non ?
Non, 14.
4, oula, 14, voilà. Oula. Première erreur. Hein. 14. Et on voit effectivement l'évolution du personnage. Je vais commencer par une phrase que j'ai trouvée, page 139. C'est une citation d'Alain Juppé. Je pense que c'est une citation, une réflexion qu'il vous fait. « Je déteste la vanité, mais j'aime bien l'orgueil parce que c'est exigeant. » Voilà. Donc, vous avez voulu, en quelque sorte, Camille, comprendre Juppé l'orgueilleux, hein, en éclairant, vous dites, dans votre recherche, son enfance, sa formation, ses premiers échecs, ses mentors, ses premières victoires électorales. Qu'est-ce que vous avez pensé d'avoir percé du mystère Juppé ? Qu'est-ce que vous ne saviez pas de Juppé et que vous avez découvert en travaillant sur le personnage ?
J'ai découvert beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. On a tous l'image souvent d'un Alain Juppé bordelais, peut-être, pourquoi pas, enfant de grand bourgeois. En tout cas, il peut donner l'image. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui se tient bien. Donc, on peut supposer. Voilà. J'ai su assez vite qu'il était de Mont-de-Marsan et que ce n'était pas forcément le cas. Mais je ne me rendais pas compte que sa famille, finalement, n'était pas si classique que ça. Quand on a, par exemple, sa mère qui a beaucoup compté pour lui, qui est quand même, qui a été divorcée avec deux enfants. Enfin, c'est très, très rare, très jeune, avant de se remarier avec le père d'Alain Juppé et d'en avoir deux autres. Enfin, c'est voilà, une famille où, finalement, il y a des parcours atypiques, qui est vraiment de la petite bourgeoisie montoise, relate dans une ville qu'il trouve relativement en plus étouffante. Donc moi, j'ai découvert aussi qu'il avait aimé son enfance, mais qu'il s'y était quand même beaucoup ennuyé et qu'il avait été très, très content d'aller respirer l'air parisien à 17 ans, une fois le bac en poche. Et voilà. Et puis j'ai découvert, moi, je ne savais pas du tout qu'Alain Juppé, comment il avait conduit ses campagnes électorales dans les Landes. Entendre des gens me raconter sa campagne électorale et savoir qu'il était si... on va dire emprunté, voilà, et manquant de relâchement à ce moment-là, alors que à Bordeaux, beaucoup de gens disent qu'il a réussi à créer un lien de proximité avec les Bordelais, etc. C'était pas du tout le cas dans ses premières campagnes électorales. Et voilà, c'est des choses qui m'ont, parmi d'autres, qui m'ont surprise.
Alors, le personnage du début du livre, qui est quand même extrêmement présent. Vous en parlez ainsi, page 23. Extrêmement exigeante, elle n'en est pas moins protectrice, mère étouffante. Elle veille sur ses enfants sans relâche, considérant chaque séparation comme un drame insurmontable. Il y a même un épisode qui est tout à fait extraordinaire. Le jeune Juppé et sa sœur, Marie, qui a 2 ans de moins que lui, partent en voyage scolaire au Portugal, en partant de Mont-de-Marsan. Puis ils descendent du bus arrivé au Portugal, et sur le trottoir d'en face, il y a les parents Juppé. Qui ont roulé en voiture parce qu'elle ne supportait pas qu'il soit tout seul au Portugal, enfin loin d'elle, quoi. Elle porte à son fils un amour qui est, on va pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais quand même pratiquement totalement castrateur, non ?
Je sais pas si c'est castrateur, mais en tout cas c'est étouffant. C'est vrai qu'elle l'aime d'une façon incroyable. Elle le protège énormément. C'est lui qui le dit. Il dit voilà, quand je suis partie, le sentiment que j'ai eu, c'est de me dire ouf, je pars. Donc c'est quand même assez révélateur. Donc il y a vraiment cette relation. À la fois, il est très étouffé par sa mère, qui est surnommée à Mont-de-Marsan la grande Catherine de Russie.
Ce qui est pas rien. La famille est connue quand même. Hein.
Oui, elle est connue.
Parce que, du côté de la mère. Hein.
Oui, et même du côté du père, parce que le père est aussi dans l'équipe de rugby, ce qui à Mont-de-Marsan compte pour beaucoup, très copain avec tout le monde, apparemment il jure comme le capitaine Haddock, enfin voilà, c'est des personnalités qui sont connues à Mont-de-Marsan. Et Alain Juppé, à la fois, donc il est étouffé par cet amour maternel, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a raconté, et en même temps il ne cessera de vouloir rendre sa mère fière. Il me dit bien après, même à, enfin même après son décès, j'ai continué à me demander qu'est-ce qu'elle aurait pensé de moi, est-ce qu'elle aurait été fière, est-ce que je suis à la hauteur du destin qu'elle s'imaginait pour moi, parce que voilà, Marie Juppé, c'est quelqu'un qui décide très tôt, qui voit très tôt que son fils, c'est quelqu'un de brillant, et qui décide qu'étant brillant, bah, il faut qu'il ait une carrière exceptionnelle, qu'il soit le premier en tout, que rien ne le distrait de ses études et de son engagement, donc il ne fera pas de sport collectif, pas de musique, voilà, et il ira en voyage scolaire, parce que les voyages scolaires, quand même, c'est bien, ça permet d'apprendre les langues étrangères, mais toujours étroitement surveillé.
Alors, je reviens d'un mot sur la famille. Donc, elle s'appelle Marie Darroze. C'est un nom très connu dans les Landes, le nom Darroze, patronyme Darroze. Et en fait, le premier mariage, on sait peu de choses du premier mariage. Dans la famille Darroze, le père de Marie, qui était en fait un propriétaire forestier, a repris ses études et puis il est même devenu président du tribunal de Mont-de-Marsan. Donc je crois que c'est quelqu'un que Alain Juppé admire énormément. Enfin, c'est le grand-père.
La figure du grand-père est un peu déifiée dans la généalogie d'Alain Juppé, parce que c'est le grand-père qui s'ennuyait trop à gérer ses terres et ses domaines, et qui est devenu juge en reprenant ses études. Donc voilà, lui, c'est une figure qu'il aime bien rappeler, tout en insistant aussi sur, alors, j'ai un grand-père juge, mais j'ai surtout un père qui a fait des petits travaux. Voilà, je ne suis pas que le petit-fils d'un juge, je suis aussi le fils d'un travailleur agricole.
On sait peu de choses du premier mari, il se sépare en 38, ce qui est effectivement, elle est toute jeune avec ses deux enfants, quoi. Donc Gabriel, qui est le demi-frère aîné d'Alain Juppé, qui est décédé, je crois, il y a une dizaine d'années, enfin, il n'y a pas très longtemps, qui vivait à Bordeaux d'ailleurs. Voilà. Alors quand même aussi Robert Juppé, le papa d'Alain, va être un jeune combattant, jeune résistant dans le corps franc-pommiès, qu'on connaît bien dans le sud-ouest, puisque c'était ce grand maquis qui a rayonné dans tout le sud-ouest de la France pendant sous l'occupation. Alors vous avez vu Christine Leblond Juppé, qui est la première femme d'Alain Juppé, on va y revenir. Et elle dit ceci à propos de son beau-père: « Je pense que son beau-père était très bon, mais qu'il se comportait comme une brute et comme un paysan. » À propos de Robert Juppé. Oui. En fait, on a l'impression que c'est une famille qui est un peu... pas atypique, mais un peu original.
C'est une famille originale, parce que la mère d'Alain Juppé prend énormément de place. C'est elle qui tient les rênes de la maison, mais aussi qui va dire en public à son mari: tais-toi Robert, de façon très autoritaire. Et Alain Juppé aura toujours énormément de mal à communiquer avec son père. De toute façon, quand il dit qu'aujourd'hui il se fait l'apôtre de la modestie, de la modération, c'est aussi, il a toujours été très modéré, très calme, et aussi en opposition à ses parents-là et à ce couple très atypique qui s'aimait beaucoup, qui se disputait beaucoup, qui se réconciliait, enfin tout en faisant énormément de bruit avec des cris, des rires, etc.
Mais c'est presque Gainsbourg et Jane Birkin.
Oui, non, ça, enfin, je ne sais pas.
Dans un autre genre.
Je pense que sans la drogue et les folles soirées parisiennes.
Je t'aime moi non plus.
Oui, il y a vraiment un côté je t'aime moi non plus. Ouais. Et c'est vrai que c'est une famille, un destin atypique. Et Alain Juppé, par rapport à son père, son grand regret aura toujours été de ne pas justement réussir à communiquer avec lui, et de voir juste l'image un peu brute, très directe, la personne qui fait des blagues mais qui ne parle pas. Et c'est très tard, quand il était malade, qu'il s'est rendu compte, il a eu pas mal de regrets en disant j'aurais aimé lui parler davantage, j'aurais aimé qu'on se confie, apprendre davantage. Vous parliez de son passé de résistant. Alain Juppé en sait très très peu. Il sait très peu sur la rampe, même comment se sont rencontrés ses parents, le premier mari de sa mère. Enfin voilà, c'est une famille un peu atypique, et en même temps ça reste une famille bourgeoise où on ne parle pas des choses qui fâchent, on ne va pas chercher les détails. Et donc au final, il est assez ignorant de sa propre histoire familiale.
Il y a un côté quand même mauriacien, genre un peu Thérèse d'Esquirou. Il y a la lourdeur des Landes, quand même. Ce qui est tout à fait étonnant, quand même, c'est que très tôt, Alain Juppé réussit parfaitement bien son cursus scolaire au lycée Victor Duruy. lycée Victor Duruy, je ne sais pas si vous savez, Camille, mais je crois vous l'avoir dit, mais c'est le premier lycée où enseigne Claude Lévi-Strauss après son agrégation de philosophie.
Je n'ai pas dû prendre de notes ce jour-là.
Et donc, c'est très étonnant, puisque c'est dans Tristotropique. Il raconte qu'il a commencé au lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan. Donc, voilà. Ça fait deux célébrités.
Qui a vu passer aussi le ministre Alain Vidalis, ministre des Transports.
Alors, justement, c'est tout à fait ça. Vous avez vu Alain Vidalis, ministre des Transports, qui est élève 3-4 ans après Juppé, hein, à Mont-de-Marsan. Et la mémoire du jeune Juppé, elle est encore dans les murs du lycée Victor Duruy, puisque les profs sont très fiers d'avoir fait rentrer un jeune lycéen Victor Duruy à Normalsup, c'est ça?
Oui, avant ça, même à Louis-le-Grand, en classe prépa, puis à Normalsup. Et c'est vrai que le lycée Victor Duruy, c'est un très bon lycée. En plus, il est vraiment aussi symptomatique de ces années-là, de cette France, des enfants nés en 45 qui gravissent une à une en travaillant les étapes de l'ascenseur social. C'est quand même une époque où la méritocratie, ça fonctionne. Et le fait d'avoir fait rentrer un élève deux ans donc, plus tard à Normalsup, pour les enseignants de Victor Duruy, ça reste une grande fierté, et Alain Vidalis en entend parler, alors que voilà, ils se sont à peine croisés au lycée, mais au-delà de ça, la rencontre avec le ministre était extraordinaire, parce que c'est une mémoire vivante des Landes et de la politique locale m'a disséqué toute l'histoire des Landes pendant 2 heures à son bureau, c'était génial.
Il entend parler Alain Juppé de l'ENA et aussi de Normalsup par un professeur qui s'appelle Godefroy, c'est ça? Donc vous dites dans le livre, il a peut-être des accointances avec le Parti communiste. Mmh. Vraiment. C'est comme ça qu'en quelque sorte, la trajectoire va un peu se dessiner. Parce que ce n'est pas du tout banal, un jeune qui quitte Mont-de-Marsan pour aller faire une prépa à Louis-le-Grand. Ça. C'est exceptionnel. Ça. Mmh. À l'époque, en 61-62, il faut avoir vraiment des profs qui vont, en quelque sorte, détecter... les qualités de l'élève pour ainsi lui faire intégrer une des prépas les plus prestigieuses de Normalsup avec Henri IV à Paris. Donc, c'est comme ça que ça se fait. C'est par la méritocratie scolaire.
Mmh. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il est détecté très tôt. Et il entend parler de l'ENA en se disant que c'est un super truc, qu'il va pouvoir avoir de hautes responsabilités. Tout de suite, ça l'intéresse. Et c'est ce professeur-là d'histoire-géographie qui l'envoie... à Normalsup en classe en Hippocagne et Cagne, en lui disant avant toute chose, il faut que tu aies une bonne culture générale. Et donc, il va se former à Paris pour avoir une bonne culture générale avant de commencer.
Très important,
les
la culture générale. Ouais. alors, il y a un passage quand même, on peut passer vite. C'est pas qu'il veut faire curé, mais il voudrait bien être pape, si j'ai bien compris.
Oui, comme dans tout, Alain Juppé, il aime être le premier. Bah, très logiquement, enfant de cœur, ça ne lui suffit pas. Donc, assez rapidement, il essaye il gravit une à une, selon son expression, les marches du pouvoir de l'église locale. Il n'y a que 5 marches devant l'église de Mont-de-Marsan, mais en tout cas, il devient chef enfant de cœur. Voilà, il anime toutes les messes. Et c'est vrai qu'il se dit, pourquoi ne pas être pape? Bon, après, quand on lui en parle, il dit qu'effectivement, il était pieux, mais plus qu'une énorme dévotion, c'est surtout le symptôme d'une énorme ambition.
Voilà. Ce qu'il dit ce qu'il écrit dans « Je ne mangerai plus de cerises en hiver », c'est en fait, il était plus intéressé par le faste et la pompe du rituel que par le côté de la croyance et de la foi. Enfin, il aimait le côté, je pense, un peu mise en scène de l'encensoir, etc.
Oui. Voilà. Puis les responsabilités.
Ce qui est assez courant chez les enfants de cœur, mais vous ne pouvez pas savoir, parce que bien que non, Rennais et Bretonne, vous n'avez pas été enfant de cœur.
Absolument
de cœur.
Pas, non.
J'étais enfant de cœur. et à un moment, quand même, page 54, vous dites à Louis le Grand, vous écrivez que le jeune Alain arbore un style de Gaulle qui le distingue de ses camarades de prépa plutôt de gauche. Qu'est-ce que c'est un style de Gaulle?
Il a les cheveux très très bien coiffés, il a une raie impeccable qui passe son temps à recoiffer pour avoir... Voilà, il a toujours une petite chemise, il est toujours très bien mis de ses photos de classe au lycée jusqu'à après. Il a ses petits souliers cirés, sa première femme, quand elle le rencontre, raconte qu'en Grèce, il garde ses chaussettes dans ses sandales.
Chirac faisait ça aussi bien plus tard.
Et puis effectivement, en plus, contrairement à sa génération où il y avait quand même assez peu d'étudiants parisiens du quartier latin qui n'étaient pas de gauche, Alain Juppé reste gaulliste, convaincu parce qu'il a grandi dans une famille gaulliste, et gaulliste, il restera.
Ah oui. Alors, ce qui est très étonnant, c'est quand même un peu aussi l'histoire sentimentale, parce que, en fait, très jeune, il tombe amoureux. Mmh. Hein, donc, encore une fois, il est très en avance au point de vue scolaire. Hein. Il va avoir son bac aux environs de 16 ans,
Tout à fait.
Ça, hein. Et puis, l'année de ses 16 ans, il tombe amoureux de celle qui va devenir sa première femme. Mmh. Ça se passe en Grèce, dans un voyage en Grèce. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas en retard, le jeune homme. Quoi, hein, parce que la majorité est à 21 ans à l'époque. Qu'on est quand même pas, on est dans les années évidemment pré-68, très clairement, il est né en 45, donc on est en 62. Toute la province n'était pas quand même aussi éveillée, quoi.
Non, il rencontre très tôt sa première femme, ce qui deviendra sa première femme, et c'est vrai que ça influence beaucoup sa jeunesse, parce qu'il se retrouve marié très jeune, hein, il n'a pas encore la majorité, il doit même avoir une dispense de ses parents pour pouvoir se marier. Il est père très jeune, il devient père quand il passe l'oral de l'agrégation. Il est même pas là pour la naissance de son aîné, parce qu'il a demandé un report qu'il n'a pas obtenu. Et c'est vrai que du coup, il passe un peu à côté aussi toute sa vie étudiante, de toutes les protestations, mais aussi les fêtes, les rites qu'on peut avoir quand on est étudiant à Paris, au cœur des quartiers latins, dans les années 70. Il passe à côté de ça parce que très tôt, père de famille, responsable, et certains de ses collègues, même Alena, me racontaient que déjà très tôt, on allait chez lui, il avait un appartement dans le 15e, avec déjà la petite vaisselle, avec tout l'attirail de l'appartement d'adulte et de père de famille, alors que les autres habitaient encore à droite, à gauche, dans des appartements à plusieurs. Ça explique aussi un peu pourquoi il a été si sage et si rangé si tôt.
Au point que vous avez rencontré quand même quelques-uns de ses camarades, alors surtout Louis Le Grand et Normal Sup, hein, vous citez un philosophe qui s'appelle Daniel Bouillou, et il parle, lui, d'un Juppé toujours un peu dépourvu de charisme, ennuyeux et docte. Il n'avait rien du leader, on n'avait pas envie de bouffer avec lui. C'était un pôle froid sans magnétisme.
Oui, Daniel Bouillou n'est absolument pas tendre envers Alain Juppé. Il le décrit zombifié par sa blouse grise. Oui. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre eux. Je n'ai pas réussi à le savoir. Apparemment, rien du tout. Donc, ça devrait être objectif. Voilà, Alain Juppé a toujours été brillant, mais ce n'est pas le leader étant jeune. Ce n'est pas le chef de bande, celui avec lequel tout le monde veut déjeuner à la cantine. Enfin, voilà, il a ce côté. En petit comité, il peut se révéler drôle, etc. Mais dans l'anonymat d'une classe, il n'a rien du leader et de la personne qui va faire des blagues. C'est quand même quelqu'un de sérieux, de concentré et qu'on peut trouver, enfin que certains ont trouvé manifestement parfois un peu ennuyant.
Alors, en même temps, il fait des longs voyages. Hein. Il part en voyage longue distance, comme on dit, avec un copain à lui qui s'appelle Jacques Kaufmann, qui lui aussi est à Normal Sup, qui a un peu un côté. Alors, il va devenir grand reporter à l'AFP.
Ah, il n'aura pas Normal Sup, mais il va devenir grand reporter à l'AFP.
Ça, c'est un copain de Cagnes, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Et alors, lui, il a un côté un peu mauvais garçon. Enfin, c'est plutôt. Et donc, il l'entraîne quand même assez facilement. Et Juppé, il se laisse faire. Enfin, il a le côté finalement un peu transgressif aussi, quoi.
Transgressif, c'est un grand mot, il suit ce Kaufmann presque aux quatre coins du monde. Ils font beaucoup de voyages ensemble. Russie, en Turquie.
Il raconte qu'il drague les petites Suédoises à la sortie.
Et que ça marche pas du tout, apparemment.
Alors, on arrive à l'ambition d'Alain Juppé. Alors là, il y a une phrase qui aurait été prononcée par Alain Juppé. Je dis qu'aurait été parce que lui dit que non, mais Jérôme Clément, le patron fondateur d'Arte, qui est quelqu'un de très sérieux, très rigoureux, qui était en prépa avec lui et qui va retrouver plus tard après Alena d'ailleurs, Jérôme Clément dit qu'il a entendu cette phrase sur le trottoir de Louis le Grand, rue Saint-Jacques à Paris, Alain Juppé qui dit un jour. Alors là, il a quoi, 18 ans à peu près, quoi. Moi, je ferai Normal Sup, l'ENA, inspecteur des finances, et ensuite, je ferai de la politique. Là, on se dit que soit c'est vraiment une prophétie autoréalisatrice, soit il est habité par une forme de mégalomanie qui est un peu surprenante.
Mais... Bah, après, dans la mesure où il rentre en classe préparatoire pour faire l'ENA, le schéma normal sup, l'ENA et de la politique n'est pas si surprenant. À la limite, c'est inspecteur des finances, on se dit, bon, il savait déjà quel grand corps choisir.
Et puis l'ENA, si... 5% des anciens élèves de l'ENA font de la politique, 95% n'en font jamais.
Tout à fait.
Donc là, on voit bien qu'il est quand même dans cette dimension-là. Voilà. Donc, il est extrêmement heureux quand il intègre Normalsup. Il faut dire quand même qu'il rentre à Normalsup à 19 ans. Même pas, il rentre en juillet 64. Hein, et il fête ses 19 ans le 15 août 64. Et là, on sent dans les propos qu'il vous a tenus, c'est la plus grande joie de sa vie ou de ma vie, indépendamment des amours et des enfants. Je peux aussi en témoigner, pour avoir recueilli des propos à peu près comparables dans sa bouche. Je crois qu'effectivement, pour lui, l'école avec un E majuscule, c'est Normalsup et c'est pas l'ENA.
Non, c'est pas l'ENA, c'est pas Sciences Po non plus, parce qu'il a aussi fait Sciences Po.
Enfin, il passe par Sciences Po.
Mais clairement, l'endroit où il se sentira heureux d'étudier, où il aura la liberté de se consacrer à Galilée, à Molière, des plaisirs sans déboucher, mais qui, lui, le remplissent de joie, ça sera l'École Normale Supérieure. Et il ne retrouvera jamais ça à l'ENA, qui d'ailleurs, comme beaucoup d'énarques, mais qui d'ailleurs le déçoit profondément de par la qualité intellectuelle de la formation qui est dispensée.
Alors, vous avez une très belle phrase, page 61. Bravo, parce que je souligne la qualité de la formule. Alain endosse avec plaisir le costume du normalien, faisant d'Ulm, donc rue d'Ulm, son Vatican, et du quartier latin, sa place Saint-Pierre. On sent l'amoureuse de l'Italie aussi, quand même, qui écrit là. Et en même temps, vous dites, c'est vrai qu'il est atypique à Normalsup. À l'époque, il y a cette phrase des gauchistes, après 68 ans, qui disent « il faut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron ». Lui, il va toujours donner raison à Aron, donc il est très atypique à Normalsup quand même.
Oui, il se fondra jamais. Alors, il aura toujours un peu ce recul par rapport au grand mouvement de foule, par rapport au grand mouvement d'époque. Voilà, il reste en retrait et très vite, il se rend compte que c'est pas son genre du tout. Il va observer un ou deux meetings à la Sorbonne. Il va quand même traîner pour voir, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis, de toute façon, quand on regarde le parcours d'Alain Juppé, qui décroche tous les concours, qui gravit une à une les marches de l'ascenseur social, et qu'on écoute les contestations des 68ards qui disent qu'ils veulent remettre en cause la façon dont c'est enseigné à l'université,
et etc. Sont des enfants de petits bourgeois bien plus friqués que
quand même. On comprend qu'Alain Juppé, pour quelle raison en fait il protesterait contre bien ce sûr. Système, parce que le système lui réussit, lui va très très bien. Au final, il a toujours brillé, c'est le meilleur, il arrive à avoir tous les concours et à passer toutes les portes. Pourquoi il irait protester en demandant de réformer l'université, par exemple? Donc lui, il n'en a pas du tout ni l'envie ni surtout l'intérêt.
Ah oui. Alors, il y a cet épisode tout à fait intéressant qui est mai 68, en plus raconté par sa première femme. Sa première femme, on a le sentiment qu'elle est très libre de ton. C'est une enseignante, c'est ça?
Oui, c'est une enseignante, une personnalité très, très surprenante, très vive, avec une grande liberté de parole, qui n'est pas du tout dans la vengeance par rapport à son ex-mari, parce qu'ils sont encore en très bon terme, ils fêtent Noël ensemble, et voilà, donc c'est pas du tout ça, mais qui parle avec une liberté de ton qui est surprenante, surtout quand on est journaliste politique, et donc on a l'habitude d'avoir des discours un peu plus encadrés, où chaque mot est mesuré, où il y a du off, elle sait pas du tout ça, elle raconte tout, elle a aussi été souvent plus à gauche, même si elle n'est pas forcément à gauche. En fonction des moments, elle a été très amie avec des gens de droite, des gens de gauche. Mais elle a une liberté de ton et de récit qui est formidable. Et sur mai 68, elle me dit « Je suis complètement, vous vous rendez compte, enceinte sur les bancs de la Sorbonne, rapatriée avec mon bébé à mai 68, j'ai complètement loupé mon adolescence. » Elle est très, très drôle et très libre.
Alors qu'elle aurait eu un peu envie d'aller assister au meeting et tout ça.
Oui, elle regrette de ne pas avoir su saisir l'occasion.
Il faut dire que ce n'est pas banal, parce que vous racontez ça dans les pages 66 et suivantes. On a l'impression, en vous lisant, que ça fait penser à un film de Louis Malle que moi je trouve très drôle, il s'appelle Milou en mai, avec Michel Piccoli, Miu Miu et d'autres, qui raconte, d'ailleurs ça se passe dans le sud-ouest de la France, en 68, une sorte de d'exil des Parisiens en province, quoi, comme si c'était la guerre. Quoi, hein. Et d'ailleurs, ils disent presque, c'était presque rapatrié de Paris.
Sauvez-vous, rentrez avec les enfants à Mont-de-Marsan, mettez-les à l'abri.
Marie Darroze, la belle-mère, quasiment enjoint la petite famille de rentrer à Mont-de-Marsan et de se mettre à l'abri quoi, hein, par rapport aux hordes gauchistes et bolcheviques qui sont en train d'envahir Paris. Quoi. Bon.
Après, c'est assez représentatif de l'image de la France provinciale, enfin en région, qui comprend pas, on parle beaucoup de ça comme si ça avait mis à feu à sang toute la France. Au final, il y a beaucoup de gens en province qui n'ont pas forcément compris ce qui se passait.
Ah, bien sûr,
Voilà, donc ils sont là-dessus, ils sont assez à l'image de cette France de province qui comprend pas, qui est entre la peur et l'incompréhension. En fait,
on a mangé du foie gras et du canard pendant le mois de mai 68. Voilà, bon. Donc ils sont réfugiés à Mont-de-Marsan. Lui, il nie être passé à côté de 68.
Oui, il dit non, quand même, je suis pas passé à côté, j'ai compris, j'y étais. Au final, quand on regarde les faits, bon, si c'est pas ça être passé à côté,
En même temps, on se demande ce qu'il y aurait fait, quoi.
Mais il a défilé pour en soutien général de Gaulle. Voilà. Donc, c'était son 68.
Il remonte le 30 mai 68 et là, il s'associe aux 800 000 ou aux millions de manifestants sur les Champs-Élysées pour la grande manifestation des gaullistes. Alors, moi, j'ai une autre version, enfin une autre interprétation, mais c'est qu'en fait aussi, l'été 68, c'est l'été où il prépare le concours de l'ENA.
Oui, non.
Donc, il n'est pas impossible qu'il ait quand même aussi bien travaillé pour le concours, hein, tout simplement. Donc, il ne s'est pas trop laissé distraire. Et donc, il intègre l'ENA après le grand oral d'entrée à l'ENA. Il a les résultats à la fin de l'année 68, il intègre en 60 ans. En fait, il fait une année de service militaire à Ballard. Hein. Là, il rencontre entre autres Jean-Paul Cluzel, etc. Okay. Il y a tout un épisode très intéressant. Et puis, il y a ce passage à l'ENA. Vous dites, bon, il s'y ennuie, etc. Et c'est un moment très particulier parce que ça correspond à une période où sont remis en cause ce qu'on appelle les classements pour intégrer les grands corps. L'ENA, c'est un peu compliqué. La scolarité dure à peu près 28 mois. Et puis, à la fin, il y a ce qu'on appelle un amphigarnison où les résultats sont donnés sans que les notes aient été connues des élèves de l'ENA. Le premier, celui qui est majeur, choisit tout ce qu'il veut. Et puis, au fur et à mesure, du rang de classement, le choix se réduit. Pour faire partie et intégrer ce qu'on appelle les grands corps, il faut sortir dans la botte. À l'époque, vu le nombre de promotionnaires de l'ENA, il fallait être à peu près dans les 15 premiers. C'était tout ça, la botte de l'ENA. Donc, lui, il est cinquième et il intègre l'inspection générale des finances. Et il a une drôle de phrase. Il dit « J'avais l'impression qu'on était plus ambitieux à l'inspection des finances qu'au Conseil d'État ». C'est une phrase qui vous a dit
tout à fait. C'est ce qu'il m'a dit, parce que je lui ai demandé, voilà, où est-ce que vous avez hésité. Il y a notamment aussi le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Enfin, il y a d'autres grands corps qu'il aurait pu choisir. Et c'est la seule justification qu'il m'a donnée. C'est-à-dire, voilà, donc encore une fois, c'est l'ambition. Et au-delà de l'ambition, c'est vraiment l'exigence d'excellence qui motive tous ses choix, plus que une fondamentale envie d'aller auditer les comptes.
Oui, il faut dire ce que c'est que l'inspection des finances. Tout le monde ne le sait pas forcément.
Non, c'est des auditeurs en fait qui vont auditer des perceptions d'impôts en province pour voir si elles sont bien gérées, etc. Donc c'est un travail très en prise avec le terrain, mais qui n'est pas forcément aussi glamour que si on pense aux affaires étrangères ou d'autres corps.
Mais en même temps, c'est un corps d'inspection des finances où on va en quelque sorte puiser dedans pour confier des missions particulières. Il y en a une qui va être tout à fait passionnante pour lui, c'est celle qui va mener avec Michel Bon, qui dure pratiquement 4 mois.
Ils font le tour du monde, ils vont auditer en fait les fonctionnements des ambassades, des consulats, comment est dépensé l'argent français alloué à différentes... ça peut être un lycée français, une ambassade, etc. Et donc, ils font quasiment le tour du monde. Alors là, c'est une super année pour eux. Ils deviennent copains pour la vie. D'ailleurs, Alain Juppé nommera Michel Bon président de France Télécom quelques années plus tard. Et voilà. Et c'est surtout, en plus, les années de l'inspection des finances. C'est un tout petit corps. Il n'y en a pas beaucoup qui rentrent chaque année. Et on y reste 3-4 ans. Donc, au final, c'est une vingtaine d'élèves, vingtaine de jeunes fonctionnaires. Et ça crée vraiment des amitiés et un réseau pour la vie. C'est-à-dire, voilà, on est avant même d'être énarque, on est de l'inspection. Et là, il trouve une famille, il puisera notamment des collaborateurs dans ce corps-là et il restera très, très fidèle.
Et par ailleurs, il va aussi avoir des situations particulières, puisque cette grande enquête autour du monde Elle intervient, si je vous ai bien lu, au moment de la mort de Georges Pompidou. Mmh. Donc, il n'est même pas là pour la mort de Georges Pompidou. Il est à l'étranger et il se retrouve avec un nouveau président de la République qui s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Là, il a simplement 29 ans en plus. Quoi. Mmh. Voilà, c'est, ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est quand même tout le temps la jeunesse, j'allais dire, de Rastignac, Julien Sorel, parce que c'est un peu un mélange des deux quand même. Hein. Voilà. Racontez-nous cet épisode sur le nom de baptême de la promotion de l'ENA. Il faut expliquer ce que c'est d'ailleurs le nom.
Chaque promotion de l'ENA se bâtit, choisit son nom avec un vote des élèves. Et du coup, c'est toujours assez politique. En général, le nom, c'est soit quelqu'un qui est mort récemment, soit quelqu'un qui illustre le courant actuel. Et la promotion d'Alain Juppé hésite entre la Commune de Paris et Charles de Gaulle qui vient de décéder, ou la Commune de Paris dont on célèbre le centenaire. Et forcément, Alain Juppé est vent debout contre la Commune de Paris et appuie pour le général de Gaulle. Et c'est un peu sa première campagne électorale, parce qu'au final, il fait campagne, il prend la tête de ceux qui veulent le général de Gaulle. Sachant qu'encore une fois, on est dans un climat post-68 où c'est rare, mais cette promotion d'énarques est quand même très à gauche. Des jeunes énarques de droite, à l'époque, c'est difficile d'en trouver. Et finalement, à force de joutes oratoires, ils partent à Font-Romeu pour souder la promotion et ils s'affrontent dans des discours, dans des échanges. Alain Juppé finit par convaincre une majorité parce que ça vote et à une voix, la promotion s'appelle Charles de Gaulle. Et il dit, voilà, j'ai fait campagne, j'ai gagné. Donc, ça a une petite odeur de première victoire électorale, presque.
Alors on a l'impression, jusqu'y compris d'ailleurs à cet épisode-là sur le choix du nom de la promotion, en fait, il ne connaît pas d'échec. Quoi. Il est étranger aux échecs. Au tout début du livre, vous dites qu'il rentre un soir du lycée Victor Duruy à la maison, il pleure parce qu'il est deuxième. Mmh, voilà, ouais. Hein. Donc il a pris une drôle de mauvaise note, il est deuxième. Mmh. Alors, ça m'amène à un trait de son caractère que vous reprenez chez Michel Bon, hein, qui est donc son aîné à l'Inspection Générale des Finances, que reprend aussi Christine Leblond-Juppé, sa première femme. Voilà, je cite les deux témoignages. Alain a le problème des personnes vraiment intelligentes. Il a compris bien avant les autres, donc il peut passer pour arrogant. Il n'a pas la patience de continuer à écouter quand il a compris. Mmh. Deuxième phrase, il pense plus vite que la moyenne, ça c'est sa première femme qui parle, il atteint plus vite l'objectif, donc les gens qui restent derrière, ça l'énerve, et il ne le cache pas, c'est terrible, et donc vous écrivez page 89, résultat, avant 30 ans, Alain Juppé possède déjà ses qualités ou défauts qui lui vaudront tant de reproches, l'impatience doublée d'un zeste d'arrogance. Sa première femme va même jusqu'à ajouter « L'excès d'intelligence est une espèce de maladie mentale, il ne peut pas s'en empêcher. » Est-ce que vous avez senti ce trait de caractère chez lui, par exemple dans les entretiens que vous avez eu avec lui, le côté un peu parfois impatient comme ça?
Oui, alors avec les journalistes, j'essaye de mettre quand même les formes et d'écouter les questions jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il est comme ça, il comprend vite. Et donc, si on lui parle de quelque chose qu'il a déjà le sentiment d'avoir compris et expliqué, bah, il va aller directement point. Non, mais ça, on en a parlé, ça, c'est réglé. Voilà, ça peut être dans le travail une qualité extrêmement valorisante et appréciable. Humainement, c'est aussi parfois compliqué et c'est ce qui lui a valu tant de reproches. Et voilà, c'était marrant cette expression, c'est revenu dans la bouche de plusieurs personnes, cette maladie dit des gens trop intelligents, il dit au revoir avant même de dire bonjour. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là. Ce qui en fait une énorme force de travail et un élément très appréciable dans les équipes qui rejoindra plus tard politique, mais qui humainement pose parfois problème avec ses collaborateurs.
Vous dites aussi que pendant son adolescence, il a une espèce de longue période où il s'isole complètement. Quoi, hein. Il écoute les variations Godbert de Bach, en plus sur des moyens d'audition qui ne doivent pas être particulièrement géniaux. Hein. Un Tepaz, c'est plutôt pour les Furboom hein, à l'époque que pour écouter du Bach. Et en fait, on le voit là sur la photo de couverture, il est sur son canapé avec un espèce de Walkman. Bon, on ne sait pas ce qu'il écoute, mais il a un côté quand même très intérieur et finalement, je dirais pas autiste, mais un peu fermé, quoi, quand même.
Oui, il a besoin de son espace, il a besoin de se retrouver. En plus, bon, l'adolescence, c'est un moment où, effectivement, on se construit beaucoup. Donc, lui, il en profite pour écouter beaucoup de musique, lire énormément. Et il le dit, enfin, il m'a dit, j'ai eu une période un peu solitaire. Je lui dis, bah, une période, c'est combien de temps? Il est 3-4 ans. C'est pas six mois triste d'adolescence où on s'enferme. C'est 3-4 ans où sa sœur, je ne l'avais pas écrit dans le livre, mais voilà, elle doit vraiment demander la permission pour entrer dans sa chambre. Limite signer une feuille de déclaration à chaque fois qu'elle lui emprunte un livre. Enfin voilà, apparemment, ce qu'il m'a raconté, c'est que c'est vraiment une période où il est très centré sur lui-même, et tout au long de sa vie, il va garder ce besoin de s'isoler pour lire, pour écouter de la musique et pour apprécier ses plaisirs solitaires.
Est-ce qu'il reconnaît qu'il a été chiant, par exemple, dans cette période-là?
Bah, il le dit pas comme ça, non, parce non, que de toute façon
pas, bon.
Non, en plus c'est pas quelqu'un qui, enfin, quand on dit 4 ans de solitude un peu enfermé dans sa chambre, on pourrait dire, ah, bah, vous étiez pas bien, c'était une petite dépression, c'était une crise d'adolescent. Non, il va jamais, enfin, Alain Juppé, c'est quelqu'un qui va jamais aller là dans, en plus, dans des explications comme ça, parce qu'il déteste mais tellement l'introspection et la psychanalyse que, dans tous les cas, voilà, il va dire non, c'est juste que j'étais célibataire, point barre, je me suis pas roulé par terre. C'est comme
alors, en même temps, vous racontez la rencontre avec Chirac. Alors là, c'est la première rencontre. Mmh. Vous avez même cette formule, le parleur et le taiseux, et le corrézien et le landais. Hein. Qu'est-ce qui constitue, à votre avis, le cœur de la relation entre Chirac et Juppé? Vous employez même une formule, vous dites que ça a été une sorte, que Chirac a été pour lui une sorte de père intellectuel, mais aussi affectif. Moi, je me suis dit, Chirac... À Stralé, il en a eu beaucoup d'enfants adoptifs, parce qu'entre Barouin, Sarkozy, Jean-Louis Debré, Alain Juppé, Chirac est à la tête.
Ah, Séguin, ouais, ils sont nombreux.
Bon, et de garçons en l'espèce. Mais cette relation, quand même, les deux personnages, c'est vrai, sont très différents. Qu'est-ce qu'il vous en a dit, lui, dans les entretiens que vous avez pu avoir, de la relation à Chirac?
Bah, tout d'abord, c'est incontestablement son père en politique, ça personne ne le lit, parce qu'ils, voilà, ils ont eu très vite, dans le travail, besoin l'un de l'autre. Chirac a trouvé un collaborateur efficace, organisé, quelqu'un d'intelligent, de fiable, sur lequel il pouvait se poser. Et après, voilà, y a, petit à petit, il y a quand même des liens affectifs qui se sont noués aussi, parce que Alain Juppé n'avait pas d'excellentes relations avec son père, et c'est pas quelqu'un avec qui communiquer. Chirac fait des choses pour Alain Juppé qu'il n'a fait pour personne. Quand Alain Juppé fait campagne pour la première fois, il vient 3 fois le soutenir. C'est quelque chose qu'il n'a fait, enfin, il s'est déplacé évidemment pour soutenir des candidats, mais 3 fois pendant la même campagne, il ne l'a fait pour personne d'autre. Et le fait qu'il soit devenu le fils adoptif de Chirac, c'est pas que moi qui le dis, c'est son ex-femme qui dit je l'ai vu devenir son fils, et Claude Chirac qui, pas plus tard que je crois Noël dernier, disait dans l'Obs, Juppé est le fils adoptif de Jacques Chirac. Donc c'est.
On a un peu l'impression que les enfants théoriques, c'est normal d'ailleurs, c'est classique en politique, hein, se déchirent un peu la place du fils préféré.
Ah, hein, complètement.
Se disputent place du fils préféré, quoi. Hein,
complètement.
Incontestablement. Hein. Quand on lit le dernier livre de Jean-Louis Debré, il conteste un peu ce statut.
Bah après, Juppé, c'est un père qui fait pas de cadeaux, hein, qui
joue pendant de Barouin, ouais, dont on voit là en ce moment ce qui se passe.
C'est pas un père très. Voilà. C'est un peu un père ingrat parfois qui lui dit toujours, qui a toujours du coup considéré Alain Juppé petit.
Oui,
mais même après, quand il le nommera ministre, même beaucoup plus tard, voilà, c'est Alain. Alain peut attendre, mon petit Alain. Alain peut attendre 5 ans, mon petit Alain.
Il lui dit toujours vous.
Oui, ils se vouvoieront tous les jours, ce qui est très surprenant quand on sait que Chirac, il tutoyait jusqu'au conseiller départemental de Corrèze, mais par contre, il vouvoyait Alain Juppé.
Voilà. Oui. Chirac, par exemple, je le sais parce qu'il me l'a dit, disais-tu à Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même un peu particulier. Jean-Pierre Raffarin disait vous à Jacques Chirac, mais là, au moins, la relation est équilibrée et tous les deux se disent vous. Alors, il y a cette rencontre. En fait, c'est Jérôme Monod qui appelle Alain Juppé. Hein. Mmh. Là, on est en mars 76. La date a son importance, hein, parce que, d'ailleurs, parfois, Juppé s'en amuse lui-même quand il raconte l'affaire. Il ne va pas rester longtemps à Matignon, puisque au mois de juillet, août 76, ouais, Jacques Chirac pète la porte. C'est la fameuse démission de Jacques Chirac de Matignon, qui estimait qu'il était moins bien traité que le professeur de sport, le professeur de gym de Giscard. Donc là, c'est le début d'une haine inextinguible entre Giscard et Chirac. Et il est recruté à Matignon, alors ça c'est très intéressant, avec sa double casquette de normal lien supérieur qui sait écrire et d'inspecteur général des finances qui sait compter.
Donc il participera à l'élaboration des discours, mais aussi à toutes les fiches économiques de Matignon.
Il dit, j'avais beau être dans une annexe de la rue de Varennes, je voyais très régulièrement Chirac, parce que comme c'est lui qui faisait les discours, il avait une proximité
avec Chirac et tous ses conseillers, Marie-France Garraud. Voilà, il a passé de nombreux dimanches après-midi chez Marie-France Garraud à retoucher la dernière patte du discours, un dernier détail, etc. Donc oui, il arrive comme tout petit conseiller, mais tout de suite, par contre, au cœur de la machine et au cœur du pouvoir.
Donc ça va très vite, Chirac gagne la mairie de Paris en mars 77, c'est la première fois que Paris a un maire depuis 1871, c'est quand même un événement politique, en plus ça s'est fait contre Giscard qui lui poussait d'Ornano. Donc là très vite il est intégré au cabinet de Chirac à la mairie de Paris, et puis il y a le premier grand saut en politique, alors vous nous en avez parlé au début de l'entretien, il va faire deux tentatives électorales dans les Landes. Comment est-ce qu'il est parachuté dans les Landes en mars 78? Pour quelles raisons?
Les Landes, c'est déjà une terre de gauche. Ça se bouscule pas non plus aux portes pour être candidat là-bas, sachant que la victoire, on le sait, est quasiment improbable, en tout cas très compliquée. Et Alain Juppé, il commence à être vu à juste titre. En plus, il est aussi conseiller au ministère de la coopération, enfin comme un apparatchik, quelqu'un qui gravit uniquement dans le parti, qui a aucune assise électorale, et il veut son fief, il veut sa légitimité. Et lui, dans sa tête, il va dans les Landes pour se faire élire député, pour être le prochain maire aussi de Mont-de-Marsan, en se disant, voilà, si j'arrive à être député, je deviendrai aussi le maire, et j'aurai mon assise électorale. Bon, malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme...
Il se présente sur la première circonscription des Landes. Il y a trois circonscriptions dans les Landes. C'est celle du Nord, en fait, celle qui est occupée par Roger Durour, qui est une grande figure du Parti socialiste landais. Et puis ça marche pas, même si le score est pas
non, le score est pas déshonorant. Il fait 48%, un peu plus de 48%. Il sauve les meubles, on va dire, et l'honneur, ce qui fait qu'il se dit assez logiquement, en plus dans le canton de Mont-de-Marsan, il fait plus de 50%. Donc il dit, assez logiquement, les cantonales sont l'année prochaine, je vais être candidat au cantonal, là où j'ai fait plus de 50% en législative, et sachant que Mont-de-Marsan est plus à droite que le reste des Landes, qui est clairement de façon assez figée à gauche, et là non plus, ça se passe pas exactement comme il avait voulu, parce qu'il échoue à la faveur d'une trahison en politique, d'un candidat...
Ça, il va pas aimer du tout.
Non, il va pas aimer, et puis il va pas du tout aimer perdre deux fois, sachant que, on l'a dit, jusqu'ici, Alain Juppé n'a rien perdu. Il a toujours réussi tous les concours qu'il passait, tous les entretiens qu'il passait. C'est vraiment sa première échec. Et c'est une échec, pour reprendre une métaphore footballistique, il perd à domicile. Enfin, c'est vraiment... Et ça, il ne le supportera pas. Et en plus, il perd sur des critères qui ne sont pas forcément des critères objectifs, qui sont aussi des critères de personne. C'est-à-dire qu'Alain Juppé, il fait des exposés en trois parties dans les pages locales de Sud-Ouest, sur l'économie forestière, sur ça. Quand on lit ce que faisaient ses adversaires... Il parlait beaucoup plus au cœur des gens, dans les problèmes d'emploi, des choses beaucoup plus concrètes. Et il ne comprend pas comment un vulgaire médecin, ce n'est pas du tout un vulgaire médecin, mais pour lui, un vulgaire médecin de province des Landes peut faire perdre le jeune énarque brillant qui travaille à la mairie de Paris avec Jacques Chirac. Et il le vivra très mal. Il prend sa valise et il dit « Mont-de-Marsan, c'est fini ».
Voilà, « Mont-de-Marsan, c'est fini ». En gros, vous n'êtes pas digne de moi.
Il y a de ça.
Il y a un peu ça quand même. Donc il va mettre beaucoup de temps à y revenir. C'est pas qu'il a la rancune tenace, mais je pense qu'il a le problème de l'orgueilleux, c'est que il y a des blessures d'orgueil qui marquent quoi.
Alors maintenant, il essaye de se dire que de se rapprocher de Mont-de-Marsan en parlant plus dans sa campagne, etc. C'était dans Je ne mangerai plus de cerises en hiver, ou La tentation de Venise, qui fait un portrait de Mont-de-Marsan absolument atroce, en parlant d'une ville morte qui n'a trouvé ni sa culture ni son histoire. Ces mots. Aujourd'hui, quand on lui en parle. Il a « Oh là là, j'étais dur », etc. Mais c'est vrai que 15 ans, 20 ans plus tard, il avait encore des mots d'une dureté pour décrire la ville où il avait passé son enfance qui sont impressionnants.
Alors, il y a un autre aspect, on va terminer l'entretien, il y a un autre aspect où j'étais un peu surpris de le voir en quelque sorte, de manière un peu impudique, vous confier des choses. Ou alors, c'est qu'il n'a pas été insensible à votre charme. Ou alors, dernière hypothèse, ça sent quand même le plan com, hein, c'est-à-dire même le plan cul comme com. C'est maintenant le côté, en gros, il revendique son infidélité. Les années 80, ça a été pour moi les 10 glorieuses. Je séduisais, je trompais allègrement ma femme. Alors, c'est ce qu'on trouve chez Tchakalov, Gaël Tchakalov, donc la Palais des Merveilles. Alors là, jusqu'à pratiquement, on ne sait plus quoi, ça ne s'arrête pas. Là, il vous dit quand même, c'est assez nouveau chez lui, cette histoire-là, de faire croire, enfin de montrer qu'il a été un séducteur.
Moi, j'ai d'abord appris, c'est moi qui ai amené Alain Juppé à en parler, hein, donc il ne m'en a pas parlé de lui-même. J'ai attendu le dernier entretien, les derniers quarts d'heure pour aborder le sujet en me disant, il va très mal le prendre que j'aille sur ce terrain-là et il va me mettre à la porte. Et c'est d'autres. Alors, moi, j'ai eu d'abord les premiers vents, c'est par des gens qui ont travaillé avec lui à la mairie de Paris, dont je tairai le nom, mais qui m'en ont parlé. Et ensuite, c'est Christine Leblond-Juppé, son ex-femme, qui d'elle-même m'a dit voilà, oh là là, il faudrait que j'écrive un livre avec les histoires de tromperies en politique.
Il y a même un passage où
Bernadette Chirac était plus cocu. J'étais cocu, mais Bernadette Chirac a un point quand même beaucoup plus que heureusement beaucoup plus que moi.
Et là-dessus, Xavier Tibéry rajoute, mais certainement pas autant que moi. Bref. Alain Juppé fait son coming out, mais
non. Et donc je me permets de lui en parler. C'était pas sur le biais. Vous avez beaucoup de maîtresses parce que c'est pas l'objet du livre. Et en soi, moi, ça m'intéressait pas forcément de savoir avec qui et quand et comment il avait été avec des personnes. Je m'en fiche. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça arrive à une période où on a un peu l'impression qu'Alain Juppé se brûle les ailes au contact du pouvoir, de la vie parisienne et des mondanités. Et qui s'oublie un peu. Voilà, et c'est vraiment moi là-dessus que j'ai interrogé. Il me le dit lui-même. Il dit, oui, je me suis un peu brûlé les ailes. Chez moi, à Mont-de-Marsan, on ne recevait pas, ou très peu. On avait très peu de vie mondaine. Et donc, en arrivant à Paris, c'est après son arrivée à Paris, mais quand en tout cas il travaille à la mairie de Paris avec Chirac, donc il y a des dîners, des belles réceptions.
Il a été élu en 83, il a réglé un problème là.
Voilà, et où finalement il se laisse un peu prendre à ce jeu-là, et effectivement, ça, la conséquence de ça, c'est aussi l'échec de son premier mariage et des infidélités. Mais c'est que le symptôme d'une période où il était un peu grisé par ce pouvoir et cette vie parisienne, plus que. Voilà, je ne vais pas disséquer dans le détail ces amours.
Ça lui donne un côté très humain, hein, finalement, très, j'allais dire, presque, entre guillemets, normal. Dans la partie de l'élection de 83, là, c'est l'arrondissement, donc le 18e arrondissement, on est au municipal de 1983. Jacques Chirac va faire le grand chelem, comme on dit, il va faire 20 sur 20 des arrondissements de Paris. Alain Juppé part sur un arrondissement qui est très défavorable, puisqu'il a face à lui Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti Socialiste, Delanoë, Claude Estier et Daniel Vaillant, donc les fameux 4 du 18e, et il va gagner, il fait binôme avec Roger Chino, et il va, d'une certaine façon, avoir là son premier succès électoral.
En plus, au premier tour.
Il en est très fier, Il explique d'ailleurs que ce quartier de Barbès, Goutte d'Or, etc., c'est un quartier qui était les Abbesses. Enfin,
c'est pas du tout le 18e arrondissement qu'on connaît aujourd'hui. C'était un vrai quartier populaire avec des couches, enfin des poches très très profondes de pauvreté, avec des rats dans les immeubles, avec énormément de problèmes de drogue. Et il fait, il se donne à fond dans la campagne. Il a un peu appris de ses erreurs montoises, donc il a la poignée de main et le sourire plus facile. Et il l'emporte dès le premier tour contre toute attente, parce qu'en plus les sondages étaient serrés et tout le monde avait l'air de penser qu'il y aurait un second tour à ce moment-là. Et c'est la consécration. Et la première chose qu'il fait, c'est de monter les marches de la mairie de Paris pour aller voir Jacques Chirac. Et voilà, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Et Jacques Chirac lui a juste dit « Félicitations, bon Alain ». Et il m'a dit, on te sembra. Je lui ai dit, mais il ne vous a pas fait la bise, vous a pas pris dans les bras et tout. Il me dit, non, je ne suis pas Nicolas Sarkozy, je n'embrasse pas tout le monde.
C'est vrai, c'est une effraie. Finalement, vous ressortez de cette aventure parce que, bon, vous êtes bretonne, vous avez été journaliste ici un petit peu à TV7.
Bon, à l'AFP,
vous découvrez, vous avez vraiment découvert un personnage là.
Oui, vraiment. Enfin, moi, j'étais. C'est quelqu'un que, comme toute personne, je pense, habitant à Bordeaux et s'intéressant en plus à la politique, j'avais suivi ou je lisais voilà beaucoup ce qui pouvait s'écrire dans la presse, etc. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir découvert une facette que je ne connaissais pas vraiment, parce qu'on a l'impression, en règle générale, que la vie d'Alain Juppé commence en 95 quand il est Premier ministre. Mmh. Après, on connaît tous ses affaires, sa condamnation, son exil québécois, son retour Bordeaux. Mais cette partie-là de sa vie, finalement, je trouve qu'on s'y intéresse assez peu, alors que finalement, voilà, au-delà de l'enfance, il y a aussi toute son entrée en politique, ses débuts, et c'est des étapes et qui sont très, très marquantes pour tous et qui participent énormément, en fait, à la création du personnage, à ce qu'il est aujourd'hui.
Ben, je crois qu'on peut applaudir Camille, hein, parce que tout à fait éloquent.
Merci à tous et merci à la librairie Mola. Et puis, je suis vraiment très contente d'être à Bordeaux. Qui est une ville qui m'est chère pour en parler.